おかしいおかしい、
bonsoir. Province orientale, la population de Dungu est en colère contre la présence d'une nouvelle vague de 5000 éleveurs étrangers. Nembororo, cette population accuse ses éleveurs d'avoir tué un habitant de Dungu la semaine dernière. Un millier de personnes sont descendues dans la rue lundi 14 janvier, donc au début de cette semaine. C'est pour une marche pacifique dans cette contrée du district du Haut-Ouélé. Ces éleveurs étrangers, les Mbororo, parmi lesquels des Tchadiens, des Soudanais et des Centrafricains, ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés de 20 000 têtes de bétail. Quel est l'impact de cette nouvelle présence signalée d'éleveurs étrangers dans la région? Comment les autorités réagissent-elles face à ce problème? C'est le sujet de cette émission. Les auditeurs sont déjà dans le débat. De Dieu Nefada, qui écrit depuis Dungu même dans la province orientale, dit, je cite, si la Fembo n'est pas prise en considération, c'est parce que le gouvernement leur a permis d'immigrer sur le sol congolais et ces gens ont des documents officiels. Depuis Mandaka, l'Équateur, Nico Litepu estime que la RDC est devenue le marchepied de n'importe qui. Les gens entrent et sortent comme s'il n'y avait pas de frontières. Fin de citation. Et pour Toumba Florent à Kindu Malima, le phénomène Bororo risque de prendre la même allure que celle de Cheibwanda au Bandundu. Nous avons pour invité ce soir M. l'abbé Benoît Kinalego, président de la commission Justice et Paix du diocèse de Dungu Doruma en province orientale, Michel Drazo Angotoa, ministre provincial, il est en charge de l'administration du territoire, affaires coutumières et justice dans la province orientale, et Jacques Joly, sénateur MLC, vice-président de la commission défense et sécurité au Sénat. Vous suivrez aussi dans cette émission le point de vue du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur du gouvernement central. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Province orientale, la population de Dungu, nous vous l'avons dit, est en colère. Cette population est en colère contre la présence d'une nouvelle vague de 5000 éleveurs étrangers, les Mbororo, des éleveurs accompagnés de 20 000 têtes de bétail. Quel est l'impact de cette présence dans cette région de la province orientale, précisément à Dungu? Guy Roger Nyampala joint notre confrère Jacques Moukonkole pour les détails.
Bonsoir Jacques Moukonkole.
Bonsoir Guy Roger.
La population de Dungu a marché pacifiquement lundi dernier pour protester contre la présence des rebelles ougandais ainsi que d'éleveurs Mbororo dans cette partie de la province. Quand est-ce que ces éleveurs Mbororo et les rebelles LRA sont arrivés en territoire de Dungu?
Selon la commission de justice et paix du diocèse de Dungu, les rebelles ougandais de LRA sont arrivés depuis janvier 2007 et se sont installés dans les postes administratifs de Yakuluku. La même source affirme quelques mois avant, c'est-à-dire en 2006, environ 5000 Mbororo accompagnés de leurs troupeaux estimés à 20 000 têtes s'installaient à 100 km de la cité de Doruma, à plus de 90 km de Dungu.
Mais pourquoi la population manifeste aujourd'hui alors que ce nouveau groupe d'éleveurs Mbororo et rebelles ougandais sont arrivés il y a environ une année?
Ils manifestent leur ras-le-bol, notamment face à l'insécurité croissante dans leur contrée.
Vous dites qu'il s'agit d'une nouvelle vague d'éleveurs Mbororo et rebelles signalés dans le Haut-Ouélé. Qu'en est-il de la première vague?
Tout à fait. Les premiers éléments, eux, sont arrivés entre 2002 et 2005. Ils sont venus en masse et ont envahi les chefferies Sassa et Mopoi en territoire d'Ango, avant de progresser jusque dans le territoire des Poko, en chefferie Bosso, proche du district du Haut-Ouélé. Vous comprenez que ces éleveurs sont des nomades à la recherche des pâturages et des cours d'eau pour leurs bêtes. Et à ce titre, ils sont en mouvement perpétuel.
Et quel est l'impact, Jacques, des Mbororo dans les régions où ils se sont installés?
Que ce soit dans le bas ou les Haut-Ouélé, l'impact des Mbororo est négatif, aussi bien sur le plan environnemental, social, économique. Je vous propose de suivre le commissaire de district du Haut-Ouélé qui a séjourné dernièrement à Doruma, c'est en territoire de Dungu, Maurice Ngoïkion.
Les Mbororo sont entrés, d'abord on ne sait pas d'où ils sont venus, ils sont là-bas, ils n'ont vu personne pour s'installer. Pendant ici, leur travaux des champs et des cueillettes pratiquement impossible d'ici. Leurs vaches broutent dans les champs, leurs vaches vont dans les sources pour là où on prend de l'eau potable. Alors il y a des sérieux problèmes de ce côté-là, ainsi que pour la population. L'air de part serait une solution sanitaire.
Quel genre de relations les paysans entretiennent-ils avec les Mbororo?
Ce sont en tout cas des relations en dents de scie. Il est signalé sporadiquement des accrochages ou des affrontements entre les deux parties. Le 11 janvier dernier, deux personnes ont trouvé la mort, assassinées par des Mbororo à Nanga pour avoir réclamé leurs produits ravis par des éleveurs.
Ces éleveurs sont-ils armés, Jacques?
Selon des témoignages, les Mbororo sont bel et bien armés, porteurs d'armes de guerre, notamment des AK-47.
Merci, Jacques Mokonkolé.
Merci, Guy Roger.
Michel Drasso Angotoa, vous êtes ministre provincial chargé de l'administration du territoire, affaires coutumières et justice en province orientale. Comment vous expliquez-vous cette situation, la présence de ces éleveurs étrangers?
Merci pour la question. Comment j'explique la présence de ces Mbororo dans le territoire, plus précisément en province orientale? Je pense que, comme venait de le dire celui qui m'a précédé, ce phénomène Mbororo ne date pas de maintenant. Et la première vague de Mbororo, nous le savons, pour la bonne histoire.
On l'a déjà dit.
Oui, de 1980. Et ils sont entrés par l'Équateur, à partir d'une localité centrafricaine de Bétia. Alors, excellent dans le braconnage, ils ont été chassés par le pouvoir de l'époque. Et pendant la période tumultueuse de la rébellion, dans les années 2001-2002, alors, ces Mbororo, éleveurs cette fois-ci nomades en quête du pâturage, comme on l'a dit, est constitué de ressortissants tchadiens, soudanais et centrafricains, sont revenus de nouveau en République démocratique du Congo et se sont installés, comme l'avait dit le prédécesseur, en territoire d'Ango, dans les chefferies Mopoi, plus précisément à Banda, à Ezo, à Dakwa et à Sassa, ainsi que dans le territoire de Poko, en chefferie Madi, dans le district du Bazuele.
Oui, mais monsieur le ministre, je crois qu'on a suivi un peu toute cette histoire que vous confirmez vous-même. Mais alors, est-ce que les frontières de la province orientale telles qu'elles sont protégées aujourd'hui, nous le supposons, est-ce que de nouveaux Mbororo peuvent encore traverser cette frontière?
Absolument, non. Et c'est possible, c'est avec, nous partageons avec les républiques sœurs, je veux dire ici la République du Soudan, la République centrafricaine, des très longues frontières, pour la plupart moins sécurisées, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, cette partie du territoire qui était jusque-là gardée par les soldats non-allemands, des forces armées, non brassées, ont dû pour la plupart rejoindre le centre de brassage. Ce qui fait que certaines portions du territoire sont restées pratiquement sans protection. Donc là, il est sûr que c'est plus facile pour les Mbororo, plus précisément, de pouvoir entrer sans beaucoup de problèmes.
Oui. Et donc, vous donnez raison un peu à Nico, l'ITEPU, l'auditeur de Mbandaka, qui dit que, disons que la RDC est devenue comme un marchepied de n'importe qui, des gens entrent et sortent comme s'il n'y avait pas de frontières. Est-ce que c'est un peu ça la réalité au niveau de la province orientale?
Bon, tout ça, c'est l'effet justement de la situation que notre pays a connue en général, et la province orientale en particulier. Parce que vous savez que pendant cette période de trouble, il y avait plusieurs groupes armés appartenant chacun à des groupes différents. Et après, justement, que le calme soit revenu, Bon, il y a eu justement ce mouvement de brassage incomplète du reste,
oui.
Et qui a fait que, pour le moment, effectivement, le problème se pose à ce niveau. Le problème sécuritaire se pose à ce niveau-là.
Oui.
Puisque nous avons en ligne depuis Dungu même, là où les Mbororo tracassent la population, d'après tous les témoignages que nous avons reçus, M. l'abbé Benoît Kinalengo, Kinalego, voilà, vous êtes président de la commission justice et paix du diocèse de Dungu. Est-ce que cette situation de Mbororo, pour vous, n'est pas une urgence? Monsieur l'abbé Benoît? Voilà, on va retrouver M. l'abbé Benoît après, mais le sénateur Jacques Joly, voilà, cette situation elle est signalée depuis bien avant, et vous qui êtes maintenant sénateur, membre du Parlement, d'abord votre première réaction sur cette situation de Mbororo.
Merci beaucoup. La situation de Mbororo ne nous étonne pas. Dès lors que nos collègues de la province orientale, je voudrais ici leur rendre hommage, je pense notamment à l'honorable Nembamba, Mokonda, Bibi et les autres, ont soulevé, dès que nous avons commencé nos travaux, la situation dangereuse qui prévaut, n'est-ce pas, dans cette province, par la présence permanente de Mbororo. Le Sénat a fait son travail pour envoyer une commission et nous avons entendu le ministre de la Défense qui nous a dit à l'époque, parce qu'il était question de tous les points sensibles où il y avait insécurité qui pouvait, n'est-ce pas, à tout moment créer des problèmes graves au niveau de la République, il nous avait dit que la question était en train d'être résolue parce qu'on envoyait des militaires sur place et que sur les plans opérationnels, il ne pouvait pas nous dire tous les éléments. Mais je me rends compte que la situation n'a pas évolué, étant donné que aujourd'hui il y a encore cette vague. Je voudrais vous dire que la situation de ces deux provinces, et plus particulièrement de la province orientale, avec la présence de Mbororo, c'est une situation prévisible. Le Sud-Soudan et la partie de la République centrafricaine qui sont contiguës à notre pays sont des parties non contrôlées. Et malheureusement, chez nous aussi, contrairement à la vision des défenses qui était déjà prévue par le Belge, parce que tout au point, le point le plus haut de la République, à Aba, il y avait une base à Kengezi. Et depuis lors, notre frontière souffre d'une porosité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune force. Or, les éléments tchadiens, les éléments soudanais, les éléments centrafricains sont à la recherche de pâturage. Sont des pays, n'est-ce pas, qui sont ténaillés par la sécheresse.
Oui.
Et notre pays, à ce niveau-là, il y a un parc.
C'est une sorte d'Eldorado.
Oui, c'est un parc. Nous avons le parc de Nagero qui est là. Nous avons notre parc touristique, je voudrais vous dire qu'à Dungu, il y a un château, très beau château. Eh bien, cette partie du territoire semble être un lieu, par exemple, de repère de ces bandits. Vous avez là les amis de LRA qui opèrent, et ce qui permet aux troupes ougandaises de venir. La République, au lieu de développer une politique claire, a toujours nié la présence de LRA, comme si c'était une honte de reconnaître ses faiblesses. Maintenant, nous avions les éléments de SPLA qui opèrent dans cette province-là, qui tuent nos bêtes, qui tuent notre population. Or, la mission d'un État, la première de mission de l'État, c'est d'abord protéger son peuple, protéger son territoire. Donc, la question de l'armée qui se pose aujourd'hui au nord aussi de Kivu, se pose aussi avec acuitance là-dessus.
Mmh.
Qu'est-ce que nous remarquons? Il y a une surmilitarisation des centres urbains. On trouve des militaires, des gardes spéciales, même au cimetière de Kikolé, même dans les aéroports, alors que nous avons besoin d'eux pour repeupler nos bases, comme à l'époque de Mobutu et de l'époque belge. Il y avait une base, comme je vous ai dit, à Kengezi, il y avait une base à Gombari, il y avait une base à Rumangabo, il y avait une base à Irebu,
mais non, c'est dégarni, donc
il y avait une base à Kotakoni, avec des forces qui pouvaient être projetées à tout moment. Aujourd'hui, nous n'avons aucune vision de défense, et la défense se résout aujourd'hui à des discours politiques, à des français mielleux, à des poèmes. Un ministère de la défense, un chef d'état-major, ça ne sert à rien qu'il parle en français, il doit protéger la population. Malheureusement, les Congolais, elle est à la merci de tous les groupes armés qu'il y a chez les voisins. Aujourd'hui, on parle de LRA,
oui.
On parle de Mbororo, de SDR, on parle aussi de Nalo et tous qui ont trouvé notre territoire comme un territoire vide,
oui.
Et il n'y a aucune approche globale pour protéger notre territoire. L'armée, monsieur, ça sert aujourd'hui à protéger le pouvoir.
Merci.
C'est malheureux.
Merci, monsieur le sénateur. On me signale au niveau de la réalisation que nous avons retrouvé monsieur l'abbé Benoît Kinalego. Monsieur l'abbé, voilà, nous avons suivi le sénateur Jacques Joly qui nous a dit qu'auparavant, il y avait même une base dans ce coin de la République. Et maintenant, il n'y a plus personne. Mais vous, vous vivez sur place à Dungu. Est-ce que la situation est effectivement préoccupante?
C'est très préoccupant, c'est une situation préoccupante localement. D'abord, la population est presque prise en otage, vit une crise sécuritaire, parce que les Mbororo agissent en maître de terrain et ne connaissent aucune autorité nationale. Les sauts congolais, ils disent-ils que ça n'appartient à personne, ils sont à Dieu. Et puis, en cas de revendication de la défense, des défenses légitimes, la population risque fort aussi. A déjà risqué, par exemple, le 11 janvier, ils ont logé des balles dans la tête de M. Ngirigu Célestin, Mbori Bilani, qui vivait à Namongo. Alors, tout cela, la population vit dans une certaine frousse et insécurité totale.
Oui, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement, ça s'est passé comment, la mort de cet habitant de Dungu?
Oui, les habitants de Ndolombo, dans le centre d'accueillement de Ndolombo. Alors, à 35 km du centre Ndolombo, alors les Mbororo ont voulu ravir la provision de cette pauvre population, et donc la provision de M. Ngirigu Célestin et Mbori Bilani. Alors, ceux-ci ont voulu résister à côté de leur provision, et c'est comme ça qu'ils sont tombés victimes. Alors, les Mbororo ont tiré sur eux.
Voilà, on a le ministre provincial, Michel Drazo Angotoa. Bien sûr, on va voir un peu comment vous réagissez. Comment vous vous expliquez un peu, vous êtes là, c'est votre juridiction, et des choses comme ça se passent. Est-ce que vous avez pris des dispositions?
Si vous voulez parler de la situation qui a prévalu dernièrement, ce dont parle le président de la société civile, je pense qu'aussitôt après cette nouvelle, nous avons donné des instructions précises à monsieur l'administrateur du territoire qui est sur place. Et je pense qu'au moment où nous parlons, parce qu'il faut bien le dire que la population a failli se prendre en charge, mais des dispositions ont été prises pour que la situation redevienne normale, en attendant que le gouvernement puisse arriver avec le gouvernement central, de la République, à envisager des mesures qui s'imposent pour que cette partie du territoire puisse retrouver la paix. Et je dois vous dire effectivement que maintenant nous parlons de Dungu, il n'y a pas que à Dungu que ce genre de choses se posent.
Oui, monsieur le ministre provincial, il y a de Dieu l'Efada, lui il est à Dungu, c'est justement un habitant de Dungu. Lui, d'après lui, si l'affaire Mbororo n'est pas prise en considération, c'est parce que le gouvernement leur a permis d'immigrer sur le sol congolais, et il a fait même que ces gens, donc ces éleveurs Mbororo, ont des documents officiels. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information?
Bon, dire que les Mbororo ont des documents officiels, ce ne serait certainement pas des documents officiels délivrés par les autorités en place. encore moins l'actuel gouvernement provincial. Et nous savons effectivement qu'à leur entrée, dans les années 2001-2002, ils avaient trouvé des autorités en ce moment-là. Des autorités à ce moment-là, c'était, vous les connaissez, et je crois, c'est en ce moment-là que certains documents avaient été délivrés par le Bolo, les autorisant effectivement à faire perdre leur bête. Ça, c'est clair. Donc, alors, je crois qu'à notre niveau, nous n'avons donné aucun document, c'est bon. Sachez très bien que ce sont des immigrants, et d'ailleurs, ils sont entrés dans le pays dans des conditions tout à fait irrégulières, et que pour ce faire, effectivement, le gouvernement provincial, pour le moment, est en train de voir comment il peut mener des actions qui permettent à la longue de trouver une solution durable à ce problème.
Alors, Monsieur l'abbé Benoît Kinaligo, je rappelle que vous, voilà, nous l'avons perdu, on me signale encore qu'on vient de perdre Monsieur l'abbé Kinaligo, mais je reviens vers vous, Monsieur le ministre provincial, Michel Drazo Angotoa. Ce sont des éleveurs, donc des nomades. Est-ce qu'on peut dire que celles qui sont là, ils se sont installés définitivement?
Ce sont des nomades, vous le dites bien, et en ce qui nous concerne, parler de l'installation définitive, ça non.
Parce que c'est depuis 2002 quand même.
Oui, depuis 2002. Vous savez que le gouvernement provincial ne vient d'être installé qu'au mois de mai de cette année-ci, de l'année passée, au mois de juillet. Avant cela, c'était des gouvernements que vous connaissez et qui étaient là.
Oui, c'est-à-dire, pour vous, vous n'avez rien à faire, mais il y a la continuité de l'État, monsieur le ministre provincial.
Tout à fait, il y a la continuité de l'État. C'est oui. Pour cela que je viens de vous dire tout à l'heure que le gouvernement provincial est en train maintenant de voir comment étudier tous les mécanismes qui lui permettent effectivement, avec l'appui du gouvernement central, à trouver une solution définitive à ce problème. Je crois que nous ne croisons pas le train.
Voilà. On nous dit que M. l'abbé Benoît Kinaligo, on vient de le retrouver. Oui, Monsieur l'abbé, justement, on voulait savoir un peu pour vous qui vivez à Dungu, parce que les éleveurs nomades, ça veut dire qu'ils viennent et ils passent. Mais là, on a l'impression que les Mbororo se sont presque installés à Dungu.
Tout à fait. Les Mbororo se sont installés et ils invitent les leurs à revenir parce qu'ils trouvent que les territoire de Dungu, c'est un pâturage. Alors, c'est ce qui nous étonne quand le ministre dit que c'est une affaire de Dungu qui n'est pas seulement unique, ce n'est pas une affaire insolite. Mais ce qui est vrai, on a négligé ces problèmes-là depuis que les morts sont là à partir de 2005 et jusqu'à nos jours. Nous avons écrit. Nous avons demandé pour qu'on puisse organiser une conférence transfrontalière ici, et jusque-là, nous sommes restés sans réponse. Pourtant, sur terre, la population souffre, la population meurt. Alors, il y a des cas de maladie. Alors, je ne sais pas comment on peut négliger une situation aussi telle qu'elle se présente.
Voilà, province orientale, la population de Dungu en colère contre la présence d'une nouvelle vague de 5000 éleveurs étrangers, les Mbororo avec 20000 têtes de bétail. Comment les autorités réagissent à ce problème, c'est le sujet de la deuxième partie de cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Comment réagit-on du côté des autorités pour régler ce problème des éleveurs étrangers Mbororo? D'après le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur du gouvernement central, le colonel Kabengele, il rassure que le gouvernement central va régler bientôt cette question des éleveurs Mbororo. On écoute le colonel Kabengele au téléphone de Guy Roger, il n'y en a pas là.
Nous sommes bien au courant de la présence des éleveurs de plusieurs nationalités, notamment qui sont venus des pays d'Israël. C'est un pays désertique dans une région où la frontière n'a pas été tracée conformément à certaines conventions en son temps. Donc je parle ici aux alentours de la conférence de Berlin entre 1885 et 1911. Pas plus loin qu'il y a deux ou trois semaines, le commissaire de district du Bas-Ouélé a été là. Il a pu sensibiliser ces messieurs-là et ils sont bien d'accord de pouvoir être recensés et ils ont accepté le principe selon lequel sitôt qu'ils ont été recensés, que l'on pourra identifier, savoir la provenance de chaque groupe ou de chacun, il va devoir épargner. Nous connaissons qu'il y a eu une ordonne, c'est une infraction, il y a une procédure pénale qui est mise en marche pour cela. Nous sommes préoccupés et nous allons prendre toutes les dispositions parce que je vous rassure que dans les mois qui viennent, les Mororos ne seront pas sur le territoire de la.
Dans les mois qui viennent, il y aura une solution de la part du gouvernement. C'est pas moi qui le dis, vous venez de suivre, là, c'est le colonel Kabengele, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur au niveau central. Puisque vous êtes sénateur, Jacques Joly, est-ce que la population peut vous croire, vous, autorité politique de ce pays?
Non, mais avec les discours que j'attends dans ce studio, il y a de quoi, c'est que la population ne puisse plus avoir confiance au pouvoir politique. Nous allons étudier très très bientôt. Mais aujourd'hui, nous sommes dans nos bureaux climatisés. Mais la population est en train de mourir. Vous avez suivi le propos de l'abbé qui nous parle. Les territoires sont violés. Monsieur ne se rend pas compte que notre pays, aussi bien au Kivu qu'aujourd'hui dans la province de l'Est. On nous fait la guerre, pourquoi? Pourquoi il y a conflictualité dans ces zones? Eh bien, tout analyste, tout élève de l'école de défense sait que les guerres qui sont menées au Congo comme ailleurs, ce sont les guerres pour nos richesses. La carte de conflictualité correspond à la carte de nos mines. On nous fait la guerre pourquoi? On va nous faire la guerre pour notre eau. Sachez que 45% du la potentialité hydraulique de la sous-région se trouve au Congo. On va nous faire la guerre pourquoi? Pour notre forêt. Et tous ces facteurs attirent le pays voisin où malheureusement, Dieu ne les a pas pourvus le même moyen que nous.
Oui.
Ils ont la sécheresse, ils n'ont pas de richesse, mais ils ont une démographie, ce sont des éleveurs. Donc, il appartient à l'État de déployer une politique de défense face à toutes ces menaces et à tous ces dangers. Curieusement, on est dans les études, on est dans les bientôt, et la population est en train de souffrir.
Oui, mais vous êtes
la population, oui. Je peux terminer par là.
Oui.
Vous savez que notre parc de Nagero, qui, n'est-ce pas, a des espèces rares en voie de disposition.
Toujours dans la province orientale.
Oui, là où on se bat, là où il y a les rats, là où il y a Sembororo. Mais il faut du braconnage. Il y a des espèces qui sont en train de disparaître. Les hippopotames sont abattus. Et l'armée, on nous dit qu'on a brassé 15 ou 20 brigades. Où sont ces brigades? On sait que 5 sont en train de guerroyer au nord de Kivu. Mais on a combien de régions militaires? Je voudrais vous dire qu'à l'époque coloniale, nous avions 3 groupements. Le premier groupement à Lubumbashi et deuxième groupement à Kinshasa, troisième groupement à Kisangani. Ces 3 groupements parvenaient à assurer la sécurité avec moins de 20 000 hommes. Aujourd'hui, la République paye plus de 350 000 hommes, je dirais même 400.
Oui.
Mais nous sommes incapables de protéger nos frontières. Et les gens disent, très très bientôt, on étudie. Donc on n'a jamais étudié cette question.
On va revenir à vous, c'est le sénateur Jacques Joly. Monsieur le ministre provincial, Michel Dorasso, Angotoa, vous êtes là, c'est quand même, vous êtes une autorité locale. En attendant la réaction, comme on a suivi le colonel Kabengele qui promet pour bientôt une réaction du gouvernement au niveau central, mais au niveau local, qu'est-ce que vous faites concrètement pour régler ce problème?
Bon, concrètement, pour régler ce problème, je crois que je venais de dire, le gouvernement est en train de préparer, mettre en place des dispositions qui s'imposent pour effectivement résoudre ce problème.
Et la
commence d'abord effectivement par l'identification de tous ces bororos. Et ayant identifié les bororos, ayant identifié tout ce qu'ils ont, comme bien je vais parler ici de jetelles qu'ils ont amenés et des armes bien sûr qu'ils ont amenés, parce qu'il faut savoir qu'ils sont dans un territoire, ils sont entrés, nous savons dans des conditions que l'on connaît. Il faudra à un moment donné qu'ils sachent qu'ils sont dans un territoire et ce territoire doit le protéger, quand bien même demain ils pourraient pouvoir rentrer chez eux, mais ils doivent être sous la protection de ce pays.
Donc,
le gouvernement provincial, justement, incessamment devra se mettre à la tâche pour commencer avec cette opération.
Donc, vous avez attendu, monsieur le ministre, oui, monsieur le ministre, vous avez attendu depuis le mois de juillet jusqu'aujourd'hui, vous avez attendu qu'il y ait des morts pour commencer à ne plus que recenser ces morts.
Mais non, on n'a pas attendu qu'il y ait des morts pour avoir. Mais je crois que chaque chose, un enfant qui naît aujourd'hui, il ne marche pas aujourd'hui. Ça, il faut bien le dire. Il doit commencer par marcher à genoux et se mettre debout et après marcher. Et il en est de même pour toutes les institutions.
Oui, mais c'est plus clair. Oui, mais vous avez suivi l'abbé Benoît Kina Lego qui vous accuse, en fait, le gouvernement local de négliger cette affaire.
On comprend bien monsieur l'abbé, il est là, il vit la situation, tout comme nous vivons aussi la situation. Nous le comprenons, mais il doit savoir effectivement que le gouvernement provincial est très préoccupé comme eux de ce problème, et c'est la raison pour laquelle, pour bientôt, nous sommes sur le terrain.
Voilà. Monsieur l'abbé Benoît Kinalego, vous êtes président de la commission justice et paix du diocèse de Dungu, là où justement se pose ce problème de Mboro. Vous avez suivi au niveau du gouvernement central le directeur de cabinet du général Kaloumé, ministre du gouvernement central chargé de l'intérieur. Il a parlé de bientôt, hein, donc la réaction du gouvernement central. Au niveau local, vous venez de suivre votre, je dirais, ministre provincial chargé de l'administration du territoire qui promet aussi pour bientôt, et vous, vous croyez à ce bientôt?
Je ne crois pas assez parce que ce n'est pas aujourd'hui que ce problème s'est posé. Le problème s'est posé depuis 2005 et 2006, 2007 et aujourd'hui nous sommes en 2008. Ça c'est, il y a d'ailleurs dans cette affaire, il y a une certaine complicité d'après moi des autorités locales. Si bien que, personnellement, je n'ai pas confiance à cette affaire-là. Il y en a qui sont complices, il y a d'autres, peut-être qui ont la main propre, mais je doute beaucoup. La plupart ont la main sale. Je donne un exemple. Sur place, à Douma, les chefs des collectivités, lui-même à l'ESAR, les chefs des postes d'encadrement à l'ESAR, dans les groupements Malingo, c'est la même chose, la population, j'ai des documents devant moi. La population accuse les chefs locaux, les autorités locales,
oui,
d'être complices.
Oui, complices de quelle manière? Est-ce que c'est des pots de vin, de la corruption qui reçoivent ces mbororos, ou ça se passe comment? Complicité à quel niveau exactement?
Tout à fait. Ils ont des dividendes auprès des mbororos. Alors ils leur donnent parfois des vaches. Et, par exemple, ici, il y a un chef qui a eu une centaine de têtes de vaches, et que ces vaches ont été transférées au Sud-Soudan pour la vente, et il faut les reconnaître.
Est-ce
que ça signifie que la vente soit de haut niveau, je ne sais pas.
Voilà. Est-ce que monsieur le ministre provincial, Michel Drazo, Angotoa, même si vous dites que vous n'avez pris le règne du pouvoir que depuis le mois de juillet, mais bientôt là, ça sera déjà une année, même cette complicité, est-ce que vous étiez au courant de tout ça? Monsieur le ministre provincial.
je n'ai vraiment pas à dire oui ou non dans cette affaire, parce que quand on parle de complicité, il faut devoir d'abord le constater, le prouver. À ce que je sache, à mon niveau, je crois que je ne suis pas en mesure de vous dire si réellement ce que vient d'avancer le président de la société civile est vrai ou faux. Mais si cela s'avérait exact, nous ne pourrons que déplorer justement le fait et de voir dans la mesure du possible en ce qui nous concerne prendre des mesures qui s'imposent.
Monsieur le ministre provincial, vous n'avez pas recensé, vous n'êtes pas au courant d'une quelconque complicité, apparemment cette situation vous échappe complètement.
Je viens de dire que je ne peux pas affirmer ni confirmer. Il faut avoir effectivement des preuves. Il faut avoir des preuves.
Voilà. Monsieur le sénateur, Jacques Joly, finalement, il y a par exemple cet auditeur, Rachidi Makenga, qui écrit depuis Bujumbura au Burundi. Il aimerait savoir si les autorités de notre pays, donc de la RDC, attendent l'organisation d'une conférence pour résoudre le problème des Mbororo. On parle d'abord avec Rachidi Makenga. Est-ce que vous pensez qu'il faut une conférence comme à Goma pour régler ce problème?
Mais en écoutant les responsables politiques qui sont en charge de cette question, j'ai bien peur. Mon cher ami, gouverner, ça ne sert pas à partager le prébende, à partager le poste, à organiser de messes. Gouverner, c'est prévoir, c'est protéger la population,
agir,
protéger le territoire et agir. Aujourd'hui, nous sommes à Goma, comme dit votre conférence, votre intervenant, vous parlez de Deschdeler. Ils sont venus dans le même circonstance. Ils ont fui le Rwanda avec armes, avec enfants, et aujourd'hui, les Deschdeler sont au centre, n'est-ce pas, de la conflictualité à l'Est. Nous avons le problème avec l'Ouganda. L'Ouganda nous menace toujours. Pourquoi? Parce que nous avons laissé les LRA s'installer chez nous. Kony est dans nos terres. Et nous sommes incapables de les chasser. Alors ils disent que nous sommes complices. Nous avons eu les experts là. Heureusement, au Soudan, on a trouvé la solution. Aujourd'hui, nous sommes en train d'installer un groupe dangereux, parce que c'est Mbororo, c'est un groupe multinational. Il y a les Tchadiens, il y a les Centrafricains, il y a les Soudanais, ils sont armés. Et je voudrais vous dire que ce groupe est en plus, je n'ai rien contre mes frères musulmans, ont une autre culture, une culture musulmane, où une autre vision avec le pauvre Bantou qui sont dans les environs, qui ont une autre culture. Donc, nous sommes en train de créer le condition d'une explosion dans la province orientale qui est déjà faite. Donc, cette situation...
Oui, on a des musulmans aussi, hein, congolais.
Oui, bien sûr. Van donc du Bas-Ouélé jusqu'au Haut-Ouélé, et ils occupent un territoire qui a notre parc, qui a nos richesses.
Oui.
Vous savez, c'est pas très loin de Ouattara, c'est pas très loin de Farak, c'est dans le territoire de Farak, c'est dans le territoire de Wamba. Donc, nous sommes en train de créer une situation de conflictualité certaine,
oui.
Et parce que nous sommes dans l'attentisme et dans une politique d'impuissance où on étudie, où on va voir, où c'est le bientôt. Mais à quoi sert l'armée que nous avons? À terroriser la population?
Voilà, on prend d'abord des réactions des auditeurs avec vous, Guy Roger Yampala. Bonsoir Guy.
Bonsoir Jean-Claude Tibakamanga. Habibou Romain de Bounia dans la province orientale voudrait savoir pourquoi le gouvernement n'agit pas rapidement aux revendications des populations des Dungu concernant les actes posés par les Mbororo. Didier Kachala dans la province de dans la ville, province de Kinshasa, demande si les militaires congolais sont installés ou pas dans cette partie du territoire national pendant que les éleveurs Mbororo détiennent des armes à feu et tuent la population. De son côté, Robert Baomé de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, veut savoir si le gouvernement de la RDC est entré en pourparlers avec les autorités des pays d'où proviennent ces Mbororo. Si oui, qu'attendent ces derniers pour regagner leur pays respectif? Enfin, de Beni, dans la province du Nord Kivu, Banga Jilo s'interroge en ces termes. Fallait-il qu'il y ait un quelconque soulèvement de la population pour que l'autorité étatique puisse réagir sur l'occupation anarchique d'une partie du territoire par les Mbororo?
Votre réponse, monsieur le ministre provincial, Michel Drasso Angotoa, chargé de l'administration du territoire, affaires coutumières et justice au niveau de la province orientale, est-ce que vous attendiez une marche, comme on l'a appris, on a même couvert, d'un millier de personnes à Dungu pour que vous promettiez des réponses déjà au niveau local. Monsieur le ministre provincial.
Oui, je vous ai un peu mal saisi, hein. Il y a un peu de... une petite
culture. Tout à fait. Je reprends la question, elle est d'un auditeur, hein. Il s'appelle Banga Gino de Beni, au Nord Kivu. Il veut savoir si vous attendiez un soulèvement de la population avant d'intervenir.
Non, on ne peut pas attendre ce vent de la population avant d'intervenir. Je venais de dire tout à l'heure que le gouvernement provincial, en ce qui nous concerne, suit la situation et est conscient du problème qui se pose là-bas. Et raison pour laquelle, effectivement, il est en train de se préparer pour effectivement faire face à cette situation. Alors, pour répondre à une autre question d'un auditeur que je suis dit, que vous dites certainement,
oui.
Où il disait que si le pouvoir central était en contact avec le gouvernement
des pays étrangers,
des pays étrangers, et je dois lui dire qu'il n'y a pas deux mois, nous avons eu la visite effectivement du représentant personnel du président de la Commission de l'Union africaine. Et cette présence était justifiée par le plaidoyer que le gouvernement central avait fait à Addis Ababa au cours d'une réunion de sécurité là-bas et qui a fait que la communauté africaine a envoyé dépêcher une délégation pour venir s'enquérir de la situation. Et cette délégation, je crois, est partie. Nous pensons que de son rapport, peut-être, se dégagera ce que l'Union africaine pourra faire dans ce. Sur ce point-là.
Oui, mais comment... ça est bref, parce qu'on va entendre la fin de l'émission, oui, concluer.
Oui. Alors, pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne le gouvernement provincial, je le répète ici que nous sommes en train, effectivement, de nous organiser pour que le plus rapidement possible, nous puissions prendre des séries de dispositions mises en place pour que dans un délai le meilleur, nous puissions résoudre ce problème de Mororo, bien sûr, avec l'appui du gouvernement central. Et pourquoi pas? Parce que l'affaire n'est plus au niveau, si tu vois, se limite plus au niveau du pays, avec l'appui, effectivement, de la communauté internationale.
Merci beaucoup, monsieur le ministre provincial. Monsieur l'abbé Benoît Attila Legault, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire après toutes ces réactions des auditeurs, hein? Vous les avez suivis. Il y en a qui se demandent, par exemple, à Dibou Romain de Bounia, qui veut comprendre pourquoi le gouvernement traîne à réagir justement sur cette question de Mororo. Soyez un peu concis, hein, parce qu'on est presque à la fin de l'émission.
Oui, ma position est claire. Il y a une certaine complicité sur cette affaire-là au niveau de nos autorités locales. Et nous ne savons pas si c'est aussi au niveau national ou international. Il y a une complicité internationale aussi dans cette affaire.
Et qu'est-ce que vous attendez de la part justement des autorités nationales qui vous suivent en ce moment, parce qu'il y a aussi un sénateur dans cette émission? Qu'est-ce que vous attendez concrètement?
La population de Dungu attend que le gouvernement mette toute la batterie pour que les Mororo rentrent chez eux, c'est ça?
Et c'est une urgence.
C'est très urgent qu'on parle ici les autorités locales des postes d'accadrement de Lomo ont été séquestrés par la population les 14 et jusqu'à hier ils étaient encore séquestrés par la population.
Ouais.
Et ils ont séquestré F Mororo. Et maintenant les Mororo sont attaqués et libérer les otages. Vous voyez déjà la gravité.
Ouais, voilà. Et on va terminer par vous, hein, monsieur le sénateur Jacques Joly, avec Didier Kachala de la ville-province de Kinshasa. Vous avez peut-être déjà répondu à sa question, lui qui veut savoir pourquoi il n'y a pas de militaires congolais dans cette partie du pays, alors qu'il y a des éleveurs Mbororo, tchadiens, soudanais et centrafricains avec armes à la main.
Je crois que vous avez suivi, monsieur l'abbé, tout est question de volonté politique. Là où est mon cœur, là où il y a mes troupes. Aujourd'hui, les déploiements de troupes du FARDC obéissent à une problématique de protection du pouvoir. Il faudra qu'il y ait ce débat sur la réforme du secteur de sécurité pour que nous puissions avoir un débat sur une armée nationale, républicaine et de développement. Et il faut d'urgence un plan de déploiement de l'armée pour résoudre la conflictualité là où il y en a. Et qu'on ne cesse, n'est-ce pas, dans cet développement sans vision dans laquelle nous sommes et sans perspective.
Merci beaucoup, monsieur le sénateur. C'est la fin de cette émission. Kelly Kouté l'a réalisé, Guy Roger Nyampala était à la préparation, Jean-Claude Scala à la technique avec la collaboration de Jacques Moukonkole, Jean-Fidèle Loa qui l'a posté de la rédaction au quartier Kisangani. En leur nom à tous, Jean-Claude Toumba Kamanga, je vous dis merci de nous avoir suivis.